c'est parti.
Y a-tu du champ?
Allô, allô?
Ah, mais...
Un, deux, un, deux? OK, c'est bon. C'est juste pour vérifier. Avant de commencer, je veux juste vérifier avec vous autres si ceux-là qui ont écouté les derniers messages que j'ai faits, s'il y en a qui se rappellent de que ça fait. Sinon, je vais faire un petit récapitulatif de tout ça. Mais il y en a-tu qui se souviennent de certaines choses?
Ouais, tu nous donnes un peu des...
Q, ouais, dans les derniers messages, on a vu que le mot apocalypse qui est utilisé voulait dire l'étude des dernières choses, qui veut dire aussi révélation. On a vu aussi que ce que c'était une révélation, que c'était un dévoilement, c'était que Dieu enlève le voile aussi dessus notre cœur pour que l'on puisse voir par les yeux de notre cœur ou encore par les yeux de notre entendement. Nous avons également vu que lire, entendre les paroles de la prophétie et de les garder de ce livre est une grande bénédiction aussi. Nous avons vu aussi la Trinité et la magnificence de Dieu. Et bien sûr, nous avons vu qu'à la fin de la grande tribulation, tout œil le verra. C'est-à-dire Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la vision de Jean, qui eut la vision du Fils de l'homme. On va lire Apocalypse, au chapitre 1, versets 9 à 20. Vous êtes là? Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à l'Odyssée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu de ces sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé par une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises. » Là, on ne pourra pas voir tout ça aujourd'hui, malheureusement. C'est pour ça que je vais faire une partie 2 à ça parce que ça aurait été trop long pour tout expliquer en détail tout ça. Là, je me suis rendu compte de ça en le faisant hier. Fait qu'on va prier là-dessus. Merci Seigneur, merci pour cette belle journée, merci pour tout ce que tu nous donnes en abondance. Merci pour les frères et sœurs. Oui Seigneur, c'est une bénédiction d'être ensemble, unis ensemble. Puis aujourd'hui, on est unis devant ta parole pour voir ce que tu veux nous enseigner à travers ta révélation. Puis je te prie Seigneur de venir bénir ce temps, Seigneur, de disposer nos cœurs, puis de mettre les paroles dans ma bouche, Seigneur, pour que ce soit toi, Seigneur, et non moi qui emmène le message. Et c'est dans le bien beau nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que je te prie. Amen. On voit ici que Jean s'identifie comme l'auteur de la vision et se fait appeler notre frère et compagnon de service au début du verset 9. Jean était bien connu des églises en tant qu'apôtre, en tant que pasteur et enseignant. Cependant, ici, il a choisi de se faire appeler notre frère. On voit ici l'humilité de Jean. Il ne voulait pas se montrer plus grand que nous, mais comme un frère et un serviteur. Car quand on se dit frère, on est serviteur des uns des autres. Et je crois bien que Jean, il avait compris ce que Jésus lui avait enseigné. On peut lire dans Marc, au chapitre 10, juste pour rentrer dans le contexte, si vous voulez y aller voir. Marc 10, à partir du verset 35 jusqu'à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Il ne sera donné qu'à ceux à qui sera réservé. Cela est réservé. Les 10, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie, comme la rançon de beaucoup. Remarquez bien ce que Jésus dit ici, que quiconque veut être grand parmi vous, ou le premier, qu'il soit esclave de tous. Et Jésus-Christ dit de lui-même qu'il est venu pour servir, et même donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Déjà là, c'est un exemple qui nous dit là, t'sais, il n'est pas venu pour tyranniser les gens puis les dominer. Non? Il est vraiment venu pour servir. Ici, dans le verset 9 d'Apocalypse, juste de la manière que Jean se dit frère, montre qu'il ne se fait pas supérieur à nous, mais notre égal. Un autre endroit dans la Bible où que Jésus en parle est dans Jean 13, quand Jésus a lavé les pieds des disciples, pour montrer que l'on ne doit pas être des despotes, les uns envers les autres, mais que même si quelqu'un est appelé comme pasteur, docteur, évangéliste, enseignant, n'est pas plus grand que les gens dans l'Église, car nous avons tous des dons que Dieu nous a donnés. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est des dons qu'il a donnés à chacun d'entre nous. On a tous des dons. Puis on doit s'en servir pour l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas nous encore là, non? Ça ne vient pas de nous, c'est pas nous, c'est Dieu qui agit encore en nous de ce côté-là. C'est pour ça qu'on est tous égaux les uns aux autres, qu'on forme tout un même corps. Et c'est comme je disais, et en plus, c'est un don qui vient d'en haut, du Père, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, autrement dit, de Dieu lui-même. Donc, on n'a aucun mérite à se donner, car personne dans cette assemblée n'est plus grand qu'un autre. C'est ce que Jean veut nous dire ici en se déclarant notre frère. C'est vraiment profond. Car nous avons tous un statut égal devant Dieu, on est tous membres les uns des autres, peu importe notre éducation sur la terre ou peu importe ce que l'on fait dans la vie, n'a aucune importance. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Jean était aussi notre compagnon dans les épreuves, parce que Jean a subi de nombreuses épreuves. Jean a même été ébouillanté dans l'huile bouillante par l'empereur romain de son époque qui voulait le mettre à mort. Mais Dieu n'a pas permis ça. Et qu'il fut sorti de Patmos, il est retourné à Éphèse, où il a continué de prêcher et à écrire. Il a été un leader important dans l'Église primitive. Jean était un homme de souffrance dans les mains de Domitien et de Néron. Il subit d'autres persécutions sur différents gouverneurs et autorités locales. Il n'est pas seulement un compagnon dans la persécution, mais aussi dans la persévérance. Il dit, « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. » Alors, ici, Jean fait référence au mot « persévérance ». C'est le mot grec « époumoné ». Sens du mot, c'est « endurance, persévérance, fermeté dans l'épreuve, capacité de demeurer debout malgré la souffrance, constante fidélité sans abandonner ». Ce mot ne parle pas juste d'attendre passivement, mais de tenir bon, de rester fidèle à Dieu même sous la pression, la persécution ou la souffrance. Dans Apocalypse 1:9, Jean dit qu'il est compagnon dans la tribulation, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. Dans le mot époumoné ici, c'est cette endurance enracinée en Christ. Une persévérance qui s'appuie sur la foi, pas sur la force humaine. Ce n'est donc plus n'importe quelle sorte d'endurance, mais une endurance joyeuse. C'est drôle, la manière qu'elle priait un matin, c'est ça que ça nous dit en réalité. Pas qu'il avait le gros sourire aux lèvres et que c'était le fun de la souffrance qu'il subissait. Cela veut dire que nous avons cette joyeuse espérance qui découle de la foi, qui ne se produit qu'à travers les épreuves. On n'apprend pas ça à l'école. On apprend ça par notre expérience chrétienne. Puis, ça, j'aime bien comparer ça au marathon. J'ai fait des demi-marathons, puis un demi-marathon, puis je cours pas mal. Puis la distance d'un marathon, ben c'est 42,2 km. Okay? C'est quand même assez loin. Hein? Et ça prend un entraînement pour développer de l'endurance. Comme dans la vie chrétienne, on a des épreuves pour nous former, pour devenir de plus en plus endurants. Et notre récompense, à la fin de la course, nos yeux fixés sur la ligne d'arrivée, quand on s'entraîne à courir sur une longue distance comme ça, c'est souffrant pour notre corps. Et notre mental, c'est de développer de l'endurance pour réussir à courir 42,2 km sans s'arrêter. C'est beaucoup. Et ce qui fait notre joie, c'est la récompense à la fin. Et pour la vie chrétienne, ce qui est notre récompense et notre joie, c'est Jésus-Christ. D'être avec lui toujours. Donc, Jean, tout comme nous, a été au milieu des épreuves. Par exemple, lorsqu'il a été exilé à Patmos. Par exemple, lorsqu'il a été à Patmos, il a été exilé à cause de la parole de Dieu, comme il est dit au verset 9. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Celui qui l'a emmené là était l'empereur Domitien, qui a été le premier à mettre en œuvre le culte de César en tant que divinité. Jean a été emprisonné parce qu'il ne voulait pas rendre un culte à César. Et Domitien, tous les Romains, sous Domitien, devaient une fois par année brûler de l'encens à son idole et de confesser que César est Seigneur. Jean n'avait aucune intention de le faire. C'est pourquoi il a continué de témoigner de Jésus-Christ en tant que Seigneur et de proclamer sa parole. C'est pour cette raison qu'il a été emprisonné sur l'île de Patmos, en Grèce. Ainsi, la tradition de l'Église nous dit que Domitien a essayé de le tuer en le faisant bouillir dans l'huile. Pouvez-vous imaginer le tourment et la souffrance qu'il a dû supporter? Mais malheureusement, pour Domitien, ça n'a pas fonctionné. Jean est resté en vie, parce que Dieu avait un but avec Jean. Il lui a donné la vision d'écrire le livre de l'Apocalypse qu'on a encore dans nos mains aujourd'hui. Jean était notre compagnon dans la souffrance pour Jésus. Vous savez, il y a des chrétiens dans le monde qui souffrent pour la parole. C'est sûr qu'ici la souffrance là, n'est pas la même qu'au Moyen-Orient ou en Chine. Il y en a beaucoup qui souffrent dans ces coins-là, puis en Inde aussi, qui souffrent beaucoup pour la parole de Dieu. On doit prier pour eux, comme qui est écrit dans Hébreu. Posons-nous la question, pourquoi ces rois, ces dictateurs, ces despotes à travers l'histoire ont essayé de faire taire le peuple de Dieu? Passons à ce qui est arrivé aux amis de Daniel dans le livre de Daniel, sous le roi Nabuchodonosor. Il s'avait fait une grande statue et il voulait que tout le monde l'adore, et les amis de Daniel ont été mis dans la fournaise à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas adoré sa statue. Même chose pour Daniel dans la fosse aux lions et les chrétiens qui ont été maltraités. On va lire Hébreux 11, versets 36 et 37. Pasteur Roy, si tu veux le lire pour nous.
36 et 37?
Oui, versets 36-37 de Hébreux 11.
D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée et allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités.
Pourquoi ça leur est arrivé? Non parce qu'ils représentaient une menace militaire ou qu'ils étaient un peuple rebelle, mais plutôt ils ont reconnu que les seules personnes qu'ils ne pouvaient pas contrôler, ce sont celles qui donnent à Dieu la première place dans leur cœur et dans leur esprit. C'est une question de contrôle. Ils essayaient de détruire le témoignage de Dieu en détruisant son peuple, de détruire la parole de Dieu pour que la prochaine génération ne parvienne pas à une relation intime avec Dieu. Ce qu'ils veulent faire, c'est endoctriner la jeune génération dans les voies du monde afin d'étouffer toute connaissance de Dieu et de gagner leur cœur et leur esprit. Ce qu'ils font, ils le font en adoptant des lois qui rendent illégal de partager la vérité de Dieu en répandant de fausses accusations contre le peuple de Dieu. On a plein d'exemples de gens dans la Bible, commençant par Paul, les apôtres, les prophètes, etc. Et ça se produit encore aujourd'hui, de nos jours. Comme disait le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous constatons que maintenant, que le système mondial actuel essaie d'endoctriner les jeunes dans leur perversion. Donc, on enseigne la théorie de l'évolution, on essaie de restreindre la liberté d'expression chrétienne, on essaie de redéfinir le mariage et d'inclure toutes sortes de perversions sexuelles. Si nous continuons au verset 10 et 11 de Révélation, Jean nous dit ici comment il a reçu la révélation du livre de l'Apocalypse. Il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Qu'est-ce que le jour du Seigneur? Notez bien que, en grec, « te kariké emera », on va le décomposer, ok? Ça veut dire « le jour du Seigneur ». Ici, « emera » veut dire « jour », « kiriaké » ça veut dire « qui appartient au Seigneur ». Vient de Kyrios, qui veut dire Kyriaké, vient de Kyrios, qui veut dire maître, Seigneur. Donc, littéralement, le jour appartenant au Seigneur ou le jour du Seigneur. Sens et portée de terme. C'est important ici. Notez bien que Kyriaké est un adjectif possessif, pas simplement du Seigneur au sens prophétique. Dans le grec du Nouveau Testament, Kyriaké Emera désigne un jour consacré au Seigneur. Très tôt dans l'Église, ce terme a été compris comme le premier jour de la semaine. C'est le jour de la résurrection de Jésus, ce qu'on appelle aujourd'hui le dimanche. D'ailleurs, le mot moderne dimanche dans plusieurs langues vient de du français ancien, dies dominica, plutôt du latin. Là. Grec moderne, Kyriaké égale dimanche. Attention à ne pas confondre. Il y a une autre expression biblique différente. Emera Kyriou. C'est le jour du Seigneur au sens prophétique, eschatologique. C'est le jour du jugement, du retour de Christ. Tu as Emera Kyriaké puis Emera Kyriou. Comme qui est décrit dans Joël et dans Thessaloniciens aussi. Apocalypse 1:10 n'utilise pas cette expression-là. En résumé, mot grec, Kyriaké Emera, sens littéral, le jour appartenant au Seigneur. Sens contextuel, c'est un jour consacré au Seigneur. C'est très probablement le jour de la résurrection. C'est un jour mis à part pour l'adoration. Ensuite, il dit au verset 10, « Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. » La trompette, dans les Écritures, ça nous dit que de prêter attention. Il sert à appeler les gens à adorer. Il sert aussi à un signal de guerre, un signal pour se déplacer, un signal pour s'arrêter et pour diriger. Donc, le symbolisme est que Jean entendit une voix qu'il ne pouvait ignorer. Cette voix forte qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. » Jean reçoit des instructions spécifiques pour écrire tout ce qui lui a été montré et le distribuer aux églises mentionnées. Jean, qui était curieux, il s'est retourné pour voir, pour savoir à qui appartenait cette voix. Parce qu'il dit au verset 12, « Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. » Et là, il a vu Jésus. Il a vu les 7 chandeliers d'or, et ensuite, il décrit Jésus au verset 13 à 15. « Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Notez bien ceci. C'est la seule description de Jésus qui nous est décrite dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas un seul mot dans le Nouveau Testament qui nous parle de l'apparence de Jésus, sauf dans le livre de l'Apocalypse. Mais maintenant que Jésus est glorifié, Jean nous en donne une description vraiment intéressante. Et à cause de cela, nous devons en jeter une attention très, très particulière. Nous regarderons ça la prochaine fois. Je vais terminer ça pour aujourd'hui, on prie. Merci Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu nous as montré aujourd'hui Seigneur, c'est vraiment beaucoup de choses. Mais merci Seigneur de nous montrer qu'on doit vraiment s'aimer les uns les autres, qu'on doit vraiment se servir les uns les autres Seigneur. Puis c'est ce que tu nous as enseigné aujourd'hui par ton envoyé Jean, qui nous a emmené, qui nous a écrit ce livre de l'Apocalypse, qui s'est décrit comme un frère, puis qu'il était vraiment égal à nous, puis que nous, on doit vraiment se regarder égal les uns aux autres, Seigneur, d'être unis parfaitement dans un même esprit, dans un même sentiment, plein d'amour fraternel les uns envers les autres. Se revêtir de l'amour de Christ. Merci Seigneur, de porter la charge les uns des autres aussi. Je veux te remercier Seigneur pour toutes ces choses. Puis je te prie de venir bénir le reste de l'après-midi. Puis merci Seigneur encore pour ta parole. Au nom de Jésus. Amen.